Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est le dictionnaire amoureux du théâtre de Christophe Barbier qui a inspiré à Franck Ferrand l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Inspiré, c'est le mot. Je me suis plongé dans cette somme de près de 1200 pages et pour tout vous dire, je n'ai pas pu facilement m'en extraire. Je ne l'ai fait que pour venir vous en parler. Le problème, c'est que je vais devoir parler de ce livre que j'ai aimé en présence de l'auteur. Ça n'est jamais très facile.
Non. C'est pas évident, effectivement. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de François sur les origines de l'expression Deus ex machina.
Deus ex machina, eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le théâtre, là. C'est une expression de circonstance. Il me semble qu'il est grand temps de frapper les trois coups.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Troublé, ému. Emballé, jaloux, surpris, amusé, complice ô combien, d'accord très souvent, agacé, quelquefois, mais vous l'aurez compris, avant tout remué, travaillé au sens fort par cette somme éclatante, par ce pavé qu'est le dictionnaire amoureux du théâtre de Christophe Barbier. Pardon de vous livrer mes émotions ainsi, sans trop de pudeur, mais il est des coups de cœur qu'il serait hypocrite de cacher. Vous avez eu, cher Christophe Barbier, la révélation du théâtre dans les années 1980. Moi aussi. Vous adorez les tréteaux de collège et les représentations d'amateurs. Moi aussi. Vous rêvez de Sarah Bernard, vous admirez Sacha Guitry. Moi aussi, au point de conserver sur mon bureau l'encrier du maître comme talisman, comme la barre d'un voilier disparu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette métaphore. C'est si beau, le théâtre, disait-il. Et un théâtre, c'est si beau. Ça a l'air d'un vieux bateau. C'est l'intérieur de quelques vieilles caravelles avec ses mâts et ses cordages, avec ses passerelles et ses immenses toiles que l'on enroule et qu'on déroule et qui ressemblent à des voiles. Toiles de fond où l'on voit passer les nuages et qui sont perforées d'étoiles. Et le trou du rideau, c'est un petit hublot par lequel on vient regarder si la salle n'est pas houleuse, car d'un four on dira que la pièce a sombré. Mais nous avons aussi, nous autres, des vedettes qui n'hésitent jamais à se mettre en avant. Cabotage et cabotinage, dames, ça se ressemble un peu. Et batteleur et batelier, ça se ressemble aussi d'ailleurs. Et nous avons la nostalgie publique de ce flot que vous êtes, qui revient tous les soirs, qui n'est jamais le même et qui garde pourtant toujours la même forme. Et votre rire qui s'élève et qui grandit et qui s'éteint tout doucement rappelle un peu le bruit magnifique et charmant que font les vagues sur la grève. Voilà ce que disait Sacha Guitry d'un théâtre somme toute devenu très marin. Eh bien, votre prose, cher auteur, est semée et constellée, devrais-je dire, de termes favoris de ce milieu très particulier. On y parle de répétition, de brigadier, nous l'avons entendu, ce brigadier à l'instant frapper les trois coups, de représentation, de salut, de claque, de critique, de coulisses, de côté cour et de côté jardin, de couturière, même si vous préférez, vous, le terme de général. Et d'ailleurs, cette générale, vous nous expliquez à quel point, autrefois, elle occupait, elle remplissait un rôle essentiel. Le petit zoo de la générale, dites-vous, à propos de tous ceux qui avaient réussi à se procurer les places tellement difficiles à l'époque à acquérir, ce petit zoo, c'était tout le théâtre en sa ménagerie qui faisait ou non un succès et prononçait le verdict avant même le début des audiences publiques. Quand le vrai public s'intéresse au spectacle, son sort était déjà joué par la rumeur. Et la rumeur, c'est l'infanterie lâchée dans Paris sur ordre de la générale. Ce théâtre que nous aimons, ce théâtre qui nous habite, vous l'envisagez dans toutes ses dimensions, du foyer au paradis, de la loge au trou du souffleur. À propos de trou, je n'évoque pas celui qui se produit de temps en temps dans la mémoire et auquel vous consacrez non pas une, mais deux entrées savoureuses. Nos grands sont là, Beaumarchais, Monterland, mais aussi Crébillon et Courteline et Obaldia. Le grand répertoire est convoqué, vous l'aimez, cela se sent à chaque ligne. Vous le connaissez de cette connaissance intime qui n'appartient qu'aux comédiens et à ceux qui ont fait l'effort d'apprendre par cœur des milliers de répliques. Vous y ajoutez tout un théâtre d'ailleurs avec Ibsen, avec Tchekhov, avec d'autres auteurs de confins et qui nous apportent en quelque sorte une sorte de renouvellement de notre propre univers. Vous m'avez fait rire dans votre rejet du grand Racine, même s'il m'a semblé curieux qu'on puisse préférer parmi ceux qui l'ont étudié de près le plat pommier au puissant Roland Barthes. Vous m'avez fait grincer des dents lorsque vous traitez Marivaux de haut, sans citer tout de même un des plus purs joyaux à mes yeux de notre répertoire, c'est-à-dire Arlequin poli par l'amour, mais qu'importe au fond. Le théâtre, ce sont des auteurs, bien entendu, et des patrons de salles, et des metteurs en scène, et des comédiens, évidemment, en somme, une infinité de grands caractères qu'on se plaît à retrouver. Me permettez-vous de constituer, de reconstituer, Christophe Barbier, comme pour un jeu des correspondances, quelques duos magnifiques qui ont marqué chacun de son empreinte une époque de notre théâtre. Corneille, justement, et Rotrou, Feydeau et Renard, Rostand et Sarah Bernard, Les Guitry, Père et Fils, Pitot, F, Dulin, Jouvet et Giraudoux, Renaud et Barrault, George Wilson et Jacques Dufilho, etc. C'est Jean d'Asté, le gendre de Copeau, Jean d'Asté auquel vous rend des hommages, qui écrivait en 1989, je le cite, « Comme tous les arts, le théâtre doit trouver à chaque époque des formes nouvelles, un style, les comédiens doivent en être les premiers artisans. Il faut pour cela de jeunes équipes ferventes, désintéressées, vivant à l'abri du monstre publicitaire et du monstre argent. » Si elles existent, alors il faut les déceler, il faut les aider afin qu'elles aient les moyens de travailler à redécouvrir librement le pouvoir du comédien, pour représenter les œuvres, qu'elles soient à l'abri de la lecture particulière d'un metteur en scène. Ah, ça c'est la grande question. C'est le comédien, disait d'Asté, qui révèle l'œuvre et qui nous révèle à nous-mêmes. Alors, il y a quelques absents quand même dans votre imposant florilège. Louis Seignier, Jacques Serres, Yvonne Godot dans un registre, Jérôme Savary, Brigitte Jacques dans un autre. Bien sûr, Jean-Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet qui est hors de tous les registres, lui. Et puis André de Guaisne, tout de même, dont la fantastique histoire dessinée du théâtre demeure à mes yeux la seule publication généraliste sur le sujet que je me permettrais peut-être de placer encore au-dessus de la vôtre. Tellement fourmillante cette somme naïve et tellement amoureuse, elle aussi. Voilà pour quelques-uns des oubliés, mais pour avoir commis naguère un opus et demi dans cette collection, je sais qu'il est impossible de n'oublier rien ni personne, ça n'est d'ailleurs pas le but du jeu. Du moins, Philippe Tesson est là, je dirais même qu'il est un peu partout, et les jeunes auteurs, Pommerat, Besset, Reza et d'autres encore, et plus généralement les gens de théâtre, jusqu'à la mise en pli réprochable de notre chère Myriam Feun de Colombie, propriétaire du Montparnasse. À ce propos, c'est Denise Petit-Didier du Donou qui me disait l'autre soir au téléphone qu'à l'époque faste du théâtre parisien, il y a environ un demi-siècle de cela, sur 47 salles qui étaient en exploitation à l'époque, 37 étaient gouvernées, si je puis dire, par des dames. Je vous laisse méditer là-dessus.
La marche de Radetzky à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand nous parle du grand art, du théâtre, à l'occasion de la sortie du dictionnaire amoureux du théâtre paru chez Plon.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Vous aimez le théâtre, vous faites peut-être vous aussi du théâtre jusqu'à 15h sur Europe 1. On parle de l'histoire du théâtre de Molière à Sarah Bernard en passant par Louis Jouvet. On parle de tout le monde effectivement.
Ou plutôt de Molière à Jouvet en passant par Sarah.
C'est exactement ça dans l'ordre. Effectivement, vous l'avez compris, le théâtre est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1.
Alors avant d'aller plus loin, chère Anissa, je voudrais tout de même préciser à l'adresse des malveillants toujours prêts à croire à la grande collusion des gens de médias, vous savez, le copinage. Je voudrais préciser que je ne connais pas personnellement Christophe Barbier et que nous n'avons jamais eu l'occasion de parler ensemble. Alors cela posé, Pourquoi ne pas l'admettre? J'ai parfois eu peur, en lisant ce livre, que Christophe Barbier soit passé à côté de quelques vérités importantes. Je sens que vous me voyez venir. Mon premier réflexe, évidemment en ouvrant ce dictionnaire amoureux, a été de chercher fébrilement l'entrée consacrée au maître des maîtres, à Pierre Corneille. Combien de chances y a-t-il, me demandais-je, pour que Barbier ait tenu compte des révélations faites par Pierre-Louise, voilà bientôt 100 ans, sur la collaboration nécessaire entre le grand Corneille et le non moins grand Molière, même si on ne parle pas là tout à fait du même genre de grandeur. Eh bien, non seulement vous évoquez l'affaire, Christophe Barbier, mais vous estimez, je cite, qu'il est évident que Corneille travaille avec et pour Molière. En ce Paris théâtral qui tient en quelques rues, le domicile du premier rue d'Argenteuil est à 120 mètres de celui du second rue de Richelieu, les tavernes partagées, les rencontres au Louvre, les soirées de spectacle prolongent d'évidence leur rencontre en 1658. Outre les collaborations connues entre les deux hommes, il est évident que l'affirmation de Pierre-Louis, confirmée par les statistiques lexicographiques, est exacte. Alors là, je me frotte les yeux avant de me frotter les mains. Voilà la vie autorisée qu'on attendait depuis longtemps. Et vous allez encore plus loin, puisque je me permets de lire les lignes suivantes. Son statut de poète quasi officiel, en tout cas de gloire respectable et de chantre du christianisme, interdit à Corneille de signer les œuvres que Molière porte en toute insolence sous les crachats de la bonne société. Qu'en peu de mots, tout est dit et bien dit. Quand je vois la somme d'insultes et de vilainies que m'avait valu la même prise de position en 2008, je ne puis que vous souhaiter, monsieur l'inconscient, d'être beaucoup plus épargné. Qui sait, peut-être les mentalités ont-elles un peu évolué depuis lors? Sachez-le en tout cas, sur ce point comme sur d'autres, vous aurez un appui dans ce studio. Surtout, si vous continuez à mettre en avant tous ces grands chefs-d'œuvre habituellement délaissés, les temps difficiles de Bourdet, Amphitryon 38 de Giraudoux. Et si Sartre, Ionesco vous ennuie un peu, moi aussi, vous ne sombrez pas pour autant dans l'habituelle et facile défense du boulevard à tout craint. Je souscris à tout cela et à bien davantage. Ainsi, quand vous évoquez les lumières fines, les éclairages hypnotiques d'un Giorgio Strehler, vous me ramenez en 1990, cet été-là, le festival d'été donnait dans la salle grandiose de l'Opéra Garnier, s'il vous plaît, l'Arlecchino Servitore di Due Padroni de Goldoni par la troupe endiablée du Piccolo Teatro de Milan. J'avais interrompu tout exprès mes vacances, à la mer quand même, pour venir assister à ça. Le hasard avait bien fait les choses en me dénichant une place dans une des grandes loges d'avant-scène. Et là, j'ai pu émerveiller, assister à ce trésor de mise en scène inventive réglée au cordeau, où plusieurs jeunes comédiens se succédaient dans les rôles principaux, sans nuire du tout à la clarté de l'ensemble. Et pourtant, tout ça était en italien. Et ce n'est pas une langue que j'ai la chance de parler. Ailleurs, quand vous saluez la valeur de Madeleine Renaud, vous me ramenez 2 ans plus tôt sur les marches, il n'y avait plus de place assise, du rond-point des Champs pour une représentation de « Oh les beaux jours » de Samuel Beckett. Elle était immobile, Madeleine, ensablée, Renaud, jusqu'au cou, et cependant, en dépit de l'âge, en dépit de la traduction, en dépit de tout, dirais-je, elle était le charisme incarné, elle donnait le sentiment, vous savez, cette espèce de charisme qui donne au public le sentiment que la température s'élève, à comparer d'ailleurs dans la même salle à la performance incroyable d'un Jean Marais interprétant Don Diègue, le père de Rodrigue. Et quand, dans un tout autre esprit, vous citez Maggie dans le Dindon de Feydeau, vous me faites revivre en 1984 le fabuleux spectacle du centenaire de la pièce dans son théâtre du Palais Royal, octant de fou rire avec Robert Lamoureux, Pierre Mondy, Yolande Folliot, Claude Jansac, j'en passe. Dire que je conservais intact, mais sans m'en souvenir, sans presque m'en douter, ces bouffées de joie pure, inséparables d'un Volpone à la Porte Saint-Martin, d'une ville dont le prince est un enfant à Liberto, d'un partage de midi à l'atelier, d'une tour de Nesle au carré Sylvia Montfort, de comédie barbare à la colline, d'un Léopold le Bien-Aimé à l'œuvre, d'un Tartuffe au gymnase, d'un Godot à Nanterre, oh mon Dieu. Cher Christophe Barbier, je dois vous dire, et vous l'aurez compris, un profond merci. Figurez-vous que je croyais, en soulevant la couverture jaune paille comme il se doit de ce dictionnaire amoureux du théâtre, j'ai cru que j'allais faire un peu mieux connaissance avec vous. Eh bien, en vérité, c'est moi qu'à la sortie j'ai l'impression de mieux connaître. Votre livre-univers m'aura produit l'effet d'un étonnant révélateur et j'aurais, grâce à vous, pris conscience tardivement, je vous le concède, et non sans un fort pincement au cœur, non sans pour plagier, monsieur Rostand, un bruit d'illusions sèches et de regrets, j'aurais réalisé au fil de votre ouvrage que j'étais amoureux, sans me le rappeler. Un amoureux transi, un amoureux béat, insatiable des billets de corbeille et du rideau rouge, des feux de la rampe et du manteau d'arlequin, des tirades, des stances, des répliques, des silences, des grands effets de scène et des petits accessoires qui donnent vie au costume. Oui, j'avais en moi tout cela, je n'y songeais presque plus, et c'est vous, monsieur, qui réveillez ces sublimes fantômes. À la vérité, je ne sais combien de vocations votre travail aura fait naître, mais je puis vous dire d'ores et déjà qu'il a fait renaître en moi une passion qui s'oubliait, et comme disait Madame Sarah, quand même. Mais, comme on dit par ailleurs, c'est Don Diègue, ça, qui dit dans le Cid, vous voyez toutefois qu'en cette concurrence, un monarque entre nous met quelques différences. La différence, et le moins qu'on puisse dire et qu'elle est de taille, c'est que, contrairement à moi, vous avez franchi, vous, le rideau de scène. Vous êtes vraiment monté sur les planches. Et oui, Christophe Barbier, c'est de l'intérieur que vous avez réussi à vivre votre passion en vous faisant comédien vous-même. Et là, je ne puis que citer les premières lignes de l'entrée consacrée à Cyrano de Bergerac. « Je suis au fond de la salle, dans une pénombre précaire. Je vois entrer en scène, bientôt. » Quelques répliques encore, le foisonnement pittoresque de l'acte 1, le petit bestiaire d'époque présenté par l'auteur en l'hôtel de Bourgogne. Deux acteurs se préparent à surgir, Montfleury des coulisses et moi du bout de l'allée. Une canne en main bricolée avec une reine, une règle et une balle en mousse, mon feutre en place, mon nez si bien fixé, si bien assimilé que je l'oublie. J'ai 17 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans un théâtre et pour la première fois de ma vie, je vais en faire, en interprétant Cyrano de Bergerac. Et j'ai peur. Une telle émotion décide d'une vie. Ce jour-là, l'envie de faire du théâtre devient passion, irréfragable. Jouer, jouer, toujours jouer. Alors je saute ici quelques paragraphes et je vais directement au dernier. Je suis au fond de la salle, dans une pénombre précaire, encore quelques répliques. L'existence n'est que l'éternel retour de cet instant fatidique. On peut fuir, mais on choisit d'entrer en scène.
Vous pouvez jusqu'à 15h réagir à l'émission, bien sûr en laissant vos messages sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire. Vous pouvez également tweeter avec le hashtag ACDH. On parle de théâtre avec Franck Ferrand jusqu'à 15h.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le théâtre est riche de mille métiers, traditions, superstitions et savoir-faire de l'Antiquité à nos jours. Christophe Barbier, comédien metteur en scène, nous fait découvrir les coulisses du théâtre avec son dictionnaire amoureux du théâtre, paru chez Plon, et il est votre invité cet après-midi,
oui,
Franck.
Je n'ai même pas besoin de vous dire bonjour, Christophe Barbier, puisque je viens de vous faire une longue déclaration d'admiration là pendant 20 minutes. Ça va les chevilles, oui, quand même,
je
à peu près.
Merci. Bonjour.
En fait, vous avez du théâtre une approche rayonnante, une approche très multiple, protéiforme. Ça, c'est ce qu'il y a de fascinant dans votre livre. J'ai presque envie de dire, il y a un théâtre pour chacun. En quelque sorte, il n'y a pas un théâtre. Vous avez appelé ça le dictionnaire amoureux du théâtre. Ça aurait presque pu être le dictionnaire amoureux des théâtres.
Oui, d'abord parce que l'histoire nous a livré des répertoires très différents, très très variés, de la grande tragédie grecque au boulevard actuel, en passant par la comédie dell'arte que vous évoquiez. Tout cela, ce sont des univers très différents. Je pense que chaque individu peut trouver son théâtre. Il vient y chercher de l'émotion, de la passion, il vient y chercher de la politique, des révolutions. Et puis chacun dans sa vie, on a des moments où on est adolescent et là on est emporté peut-être par les feux de la passion. On est ensuite un peu plus madré et on va chercher des textes qui seront plus charnus. Et puis on peut terminer sa vie aussi en écoutant mieux les théâtres mystiques et en regardant ce qu'il y a derrière un vers de Racine ou derrière un envol de Claudel.
C'est vrai, je n'ai pas cité Claudel tout à l'heure et il est essentiel, bien entendu, il était presque au centre de tout cela. Si vous deviez, vous, Christophe Barbier, retenir un souvenir, en dehors de ce premier jeu, bien entendu, hein, quand vous arrivez et que vous jouez Cyrano, mais un grand souvenir de spectateur peut-être plutôt que de comédien, je ne sais pas, est-ce que...
Oh, je dirais la Musica deuxième de Marguerite Duras, auteur que par ailleurs je n'apprécie pas spécialement.
Oui, ça j'ai cru comprendre.
J'y étais allé d'ailleurs en traînant les pieds, c'était à la Gaîté Montparnasse, et sur scène il y avait Fanny Ardant et Nils Arestrup. Et j'ai été mais cloué dans mon fauteuil par l'émotion de ce couple d'acteurs jouant un couple qui se retrouve dans une petite ville de province juste pour divorcer. Et qui revivent évidemment leur histoire d'amour et cet échec à travers ce moment. Et jamais je n'ai ressenti une telle fusion entre leur émotion, feinte puisqu'ils jouaient, et la mienne qui était sincère. On devient rusé quand on va beaucoup au théâtre. Hein. On se blinde, faut vraiment beaucoup pour nous sortir une larme ou nous sortir une émotion. Et là j'étais bouleversé.
Ce qui est inquiétant parfois c'est l'acteur.
consommation, pour ne pas dire la surconsommation que certains en font quand vous multipliez les abonnements. D'ailleurs, vous avez un article très drôle pour parler des abonnés. L'abonné, nous dites-vous, c'est celui qui parfois va choisir la facilité puisqu'il va là en bas de chez lui, il ne se soucie pas de ce qu'il va voir. Et puis en même temps, c'est celui qui aide, bien entendu, et qui va permettre à certaines salles de vivre, de se développer, de donner leur chance à de nouveaux auteurs ou de présenter de nouveaux comédiens. Alors les auteurs, les comédiens, tout le répertoire, toute cette chair du théâtre, nous y viendrons tout à l'heure. Avant cela, je vous propose de faire une incursion dans le théâtre quasiment historique, d'entrer dans la salle, de monter sur le plateau, d'aller voir les coulisses et de découvrir le vocabulaire tellement spécifique qui s'attache à cet univers bien particulier.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'art de Molière, Racine, Beaumarchais ou encore La Biche, cet après-midi sur Europe 1, on parle du théâtre. Franck Ferrand, vous recevez Christophe Barbier, directeur de la rédaction de L'Express et auteur du dictionnaire amoureux du théâtre, paru chez Plon.
Plusieurs de nos auditeurs me posent la question, Christophe Barbier, je me fais leur interprète, on est quand même un peu loin de l'analyse politique et de la direction d'un grand magazine.
Pas du tout.
On est dans la même chose, d'abord la politique et le théâtre ont à voir ensemble, que serait Shakespeare sans l'histoire politique? Tout Shakespeare, une bonne partie de Shakespeare, c'est l'histoire politique de son pays.
Oui.
Les rois successifs, et y compris Napoléon, l'empereur, ont utilisé le théâtre pour faire passer des idées, ils ne pouvaient pas ignorer ce théâtre, on parlait de Corneille tout à l'heure. Corneille, c'est par Richelieu, évidemment une emprise sur le public. On fait de la politique à travers le théâtre et Napoléon prenait des cours de diction avec Talma. Et puis enfin, il y a toujours eu une compétition à trois entre les politiques, les comédiens et les auteurs de théâtre et la religion. C'est pour ça aussi, la religion qui est une forme de théâtre, en tout cas de cérémonial, et la religion excommuniait les comédiens.
Aux origines du théâtre, en tout cas occidental, on va dire européen, et même nous allons nous concentrer peut-être un peu aujourd'hui sur le théâtre français, disons-le, aux origines, il y a les mystères, il y a donc bien la religion. Hein.
Il y a la religion, on pourrait dire la même chose des Grecs d'ailleurs, puisque l'un et l'autre se parlent, mais si l'on reste dans l'histoire française, bien sûr, rien ne se ferait au théâtre sans les mystères, qui étaient la manière d'accompagner la population, à la fois comme spectateur, et parfois aussi comme acteur, amateur, pour représenter ces mystères de la foi. C'est ce qui
a
permis... Le mystère,
c'était de grands spectacles qui étaient donnés sur le parvis des églises essentiellement.
Hein. Généralement à Pâques, pour la passion du Christ. C'était pour édifier évidemment le peuple qui ne lisait pas l'évangile et qui ne parlait pas forcément latin. Mais c'était surtout mettre des tréteaux sur une place avec des gens costumés qui jouaient des personnages.
Alors justement, pendant très longtemps, on joue sur des tréteaux. Et d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui les tréteaux de France, etc.
Oui, mais bien sûr.
Mais on jouait sur des tréteaux dans les foires, sur les marchés, etc. On ne va donner au théâtre ses lettres de noblesse et un lieu destiné qu'au tournant du XVIIe siècle. On parlait de Corneille tout à l'heure, il fait partie de ceux qui ont donné au théâtre sa dimension en quelque sorte moderne.
Oui, par la construction de bâtiments adaptés, différents selon que l'on est en Grande-Bretagne, où on a ce fameux théâtre élisabétain, avec la scène qui s'avance et tout autour en rond, si j'ose dire, des balcons, une sorte d'amphithéâtre, que l'on est en Italie, où on va tout doucement aller plus tardivement vers le fameux théâtre à l'italienne, ou que l'on est en France.
Et ce théâtre à l'italienne avec des balcons, disons-le.
Hein. Avec des balcons.
En France, il y a une galerie, généralement, parce qu'on s'est hérité du jeu de paume.
Oui,
ça, en fait,
on s'est installé d'abord dans les jeux de paume, sport très à la mode, hein, qui est l'ancêtre du tennis. Et puis, quand les lieux ont été désaffectés, on y a mis les comédiens. Molière a commencé là, avec sa première troupe. Donc, on a recyclé des bâtiments. Et puis après, le pouvoir politique a fourni des lieux. Beaucoup de pièces de Molière sont créées dans les salons du roi ou de la reine. Ceux qui visitent Chambord ignore qu'au premier étage, près de l'escalier, dans le couloir, on a créé le bourgeois gentilhomme, là. Donc, les lieux étaient détournés pour faire du théâtre. Et puis ensuite, on a construit des édifices, parfois monumentaux.
Alors, dans les villes, on avait tendance à jouer la journée, parce que les chandelles coûtaient cher, en fait.
Oui, et on jouait une journée qui commençait tôt, puisqu'au théâtre, on venait, on mangeait, on discutait, on pouvait rester 4 ou 5 heures. On était debout au parterre, alors qu'aujourd'hui, l'orchestre, c'est les places les plus chères, et il fallait se mettre dans les loges ou les galeries pour être un peu dans le confort et un peu à l'abri.
On voit ça assez bien, quoique de façon sans doute un peu caricaturale, dans le premier acte de Cyrano,
à l'hôtel de Bourgogne.
Le théâtre dans le théâtre avant Pirandello, d'une certaine manière. Peu à peu, le théâtre devient un jeu de société, il faut le dire. Au XVIIIe siècle, il y a bien sûr le théâtre pour le public, mais il y a surtout un théâtre qui devient un théâtre de salon quasiment et de politique.
Oui, et les grands politiques doivent avoir leur troupe. troupe, le frère du roi, le roi ont leur troupe, les grands aristocrates ont leur troupe. Molière est ainsi dans le sud avant de monter à Paris.
On oublie toujours que Madame de Pompadour a joué un rôle, a joué tous les rôles quasiment du répertoire et qu'elle était comédienne presque autant que favorite du roi.
Hein. Exactement. Et sans Marie-Antoinette et quelques aristocrates, jamais le mariage de Figaro n'aurait été autorisé par Louis XVI. Et puis au-delà même d'un jeu de société, il y a un jeu social et politique par l'entremise des acteurs. Combien de troupes ont en leur sein une jeune actrice qui est recrutée non pour son talent mais pour ses charmes, et elle amène à la fois dans son lit et dans la coulisse tel aristocrate qui va payer les places. Ainsi, une jeune comédienne de la Comédie Française a séduit un aristocrate qui va indemniser la troupe de la Comédie Française pour débarrasser la scène sur laquelle il y avait des spectateurs. Et ses pièces, il voulait faire jouer ses pièces et on lui disait « mais non, on peut pas, vos décors sont trop importants, il y a des spectateurs et ils nous rapportent beaucoup d'argent ». Il a payé à la place des spectateurs. Il a jamais été joué quand même.
Il s'était fait
rouer par Lequin.
Il faut dire qu'il y a un théâtre de machine à cette époque qui est très important. On n'a pas encore le grand spectacle. On a ni les comédies musicales, ni les sons et lumières, ni le cinéma évidemment. Et donc on essaie de donner des spectacles qui en mettent plein la vue de l'audience.
Hein, plein la vue, c'est deux choses. C'est l'étoile peinte qui recrée des perspectives, qui monte dans les cintres et qui descendent avec beaucoup de techniciens, notamment des techniciens venus de la marine et qui étaient à l'aise dans les cintres comme ils l'étaient dans les cordages.
D'où les jolies images de Sacha tout à l'heure.
Exactement. Et d'où l'interdiction de prononcer certains mots, comme sur les bateaux. Et puis, l'illusion aussi, c'est la lumière. Alors pas d'électricité, les quinquets, des lampes, les fameux feux de la rampe. Et donc l'acteur doit s'approcher pour être vu, avoir des ombres terrifiantes ou s'éloigner. Donc tout le jeu, toute la mise en scène est issue de comment je suis vu et comment je suis entendu.
Nous avons en France un certain nombre de vieux théâtres. On a toujours à l'esprit, bien sûr, le Grand Théâtre de Bordeaux, qui est particulièrement somptueux et qui est plutôt d'ailleurs dédié à la musique. Il l'a en tout cas longtemps été. Quelles seraient aujourd'hui les grandes salles qu'il faudrait voir pour se faire une idée de théâtre ancien? On pourrait peut-être aller à l'Odéon à Paris déjà.
Oui, l'Odéon, mais l'Odéon c'est déjà tardif. C'est la fin du 18e. C'est la fin du 18e que la Comédie Française s'installa en 1782, je crois. Il faudrait pouvoir restaurer ce qu'a été par exemple la salle de la rue Guénégo. Quand la troupe de Molière, après la disparition de son fondateur, s'installe là. Mais tout cela a été rasé. Les fameux jeux de paume qu'on évoquait. L'endroit où on invente cour et jardin.
Alors voilà,
c'est
par exemple,
les Tuileries.
Voilà.
C'est le palais des Tuileries. Il a brûlé en 1871. Et la Comédie Française qui s'y installe, indique le côté cour, c'est-à-dire la cour du Louvre, là où il y a la pyramide, ou le côté jardin.
C'est ça.
Le côté du jardin des Tuileries.
Alors, je rappelle à nos auditeurs, quand on regarde la scène, quand on est dans la salle, quand on regarde la scène, le procédé mnémotechnique, c'est Jésus-Christ, hein, jardin à gauche et cour à droite. Ça n'est pas par rapport aux décors anciens, c'est par rapport donc à la salle. Quelle salle précisément, de redites-nous ?
La salle des Tuileries. Le palais des Tuileries qui, hélas, a brûlé en 1871.
Donc, il y avait le côté de la cour et le côté du jardin.
Du jardin des Tuileries.
Est-ce qu'on utilise toujours aujourd'hui ? Est-ce que les metteurs en scène sont conscients d'un certain nombre de ces traditions ?
Jardin et cour, c'est encore parfaitement utilisé. En Angleterre, c'est pas du tout la même chose. Il y a un côté où se mettait le souffleur. Et donc, on était du côté du souffleur ou du côté opposé au souffleur. Le souffleur a disparu. On a gardé cette expression chez nos amis anglais.
Vous dites le souffleur a disparu, en tout cas dans sa position, parce qu'il y a toujours des souffleurs quand même dans certains théâtres. J'ai même assisté à des représentations que je ne citerai pas, où les comédiens travaillaient à l'oreillette.
Il faut les citer, il faut les dénoncer, c'est la mort du théâtre. Autant le souffleur fait partie d'une certaine forme de folklore humain, et puis c'est le trapéziste avec son bout de filet. Autant l'oreillette, c'est un scandale, parce que c'est pas seulement la sécurité en représentation, certaines stars en profitent pour ne pas répéter.
Et c'est ça, bien sûr.
Donc c'est absolument intolérable. Non, l'oreillette, c'est la mort du théâtre, il faut combattre ça.
Il y a dans notre Bon Paris, un certain nombre de salles mythiques, bien entendu. J'en ai cité déjà tout un tas tout à l'heure. Ce qui est très étonnant, c'est que chacune a sa spécificité. Quand vous allez au théâtre Antoine, par exemple, vous avez l'impression que le grand Antoine est toujours là, d'une certaine manière.
Antoine est toujours là. Et quand vous visitez les loges du théâtre Antoine, c'est un appartement incroyable. Son appartement est là. C'est un petit musée. C'est absolument extraordinaire. Quand vous allez à l'atelier, vous êtes chez Dulin. C'est là qu'a été créé Volpone. C'est là qu'ont été créés des tas de pièces. Vous êtes chez Dulin, donc chez les loges de la sobriété, voire de la pauvreté, et de la mise en scène. Toutes les mémoires architecturales sont là.
Ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre dictionnaire amoureux, Christophe Barbier, c'est que justement vous n'établissez pas de frontières entre ces deux théâtres, si je puis dire, qui se sont, dans l'entre-deux-guerres, fait la guerre. Hein. C'était vraiment terrible dans les années 30, entre ce théâtre, justement, celui de Copeau, de Dulin, des Pitoëf, un théâtre de création, d'invention. Je parlais tout à l'heure de Jean Giraudoux et de sa collaboration incroyable avec Louis Jouvet, au théâtre de l'Athénée notamment. Et puis, de l'autre côté, si l'on peut dire, le théâtre dit de boulevard, dont le roi était évidemment évidemment Sacha Guitry, mais ils étaient très nombreux autour et derrière Sacha Guitry. Ces deux théâtres se sont longtemps fait la guerre, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, il faut bien le dire, et pourtant nous sommes bien dans deux aspects d'un même art, il faut le dire ça.
Oui, bien sûr, d'un même art, si l'un insiste plus sur le texte et le dit et l'autre plus sur le jeu et le visuel et la mise en scène, ça n'en fait pas des arts de nature différente. Je suis plus inquiet aujourd'hui de voir des coupures politiques ou sociologiques entre ceux qui sont dans le théâtre public et ceux qui sont dans le théâtre privé. Et très rarement des comédiens ou des auteurs peuvent passer de l'un à l'autre. Et les exceptions se comptent sur les doigts d'une main. Quand on a choisi son église, si j'ose dire, on est excommunié par l'autre.
Et ça vaut aussi pour les spectateurs, c'est encore pire.
Ça vaut aussi pour les spectateurs et notamment les spectateurs les plus férus de théâtre. Et comme ceux qui vont dans tous les grands théâtres publics se commettraient à aller dans un théâtre privé. Mais il faut passer par-dessus ces frontières-là. L'émotion, elle est intacte. Que vous soyez bouleversé par les 18 heures d'Henri VI, mis en scène par Thomas Joly, plus beau spectacle de l'année dernière, ou que vous soyez bouleversé par un Feydeau magnifiquement monté au Palais Royal ou ailleurs, c'est la même émotion.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
De Sarah Bernard à Francis Huster, de la Comédie Française à la Michaudière, on parle théâtre cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express et auteur du Dictionnaire amoureux du théâtre, paru chez Plon.
Et je vous reçois aussi un peu, Anissa, vous connaissez bien le théâtre et vous étiez en train de nous raconter hors antenne une anecdote que j'aimerais faire connaître à nos auditeurs. Vous nous parliez d'Éric Emmanuel Schmitt et de sa vocation.
Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours et il racontait que quand il avait 8 ans, il était aller voir Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand avec sa maman au théâtre. Et il pleure, il est ému par ce qu'il est en train de voir sur scène. Et en sortant, il montre l'affiche à sa maman et il dit « Je veux être lui ». Sa maman pense qu'il montre Jean Marais.
Jean Marais, oui.
Elle lui dit « Tu veux donc devenir comédien ?» Et il dit « Non, je veux être l'homme dont le nom est marqué là. Je veux être Edmond Rostand. »
Et voilà.
Et on sait ce qu'est devenu Éric Emmanuel Schmitt,
que nous saluons parmi tous ces jeunes auteurs que vous citez, bien entendu, dans votre dictionnaire. C'est très important, les auteurs, quand même, que je sache. C'est le carburant du théâtre.
La sève. Il faut qu'il y ait toujours de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs qui se lancent et qui proposent des textes. C'est devenu difficile. On va leur demander des textes, des pièces à deux ou trois personnages, pas plus pour des raisons économiques. Mais il faut toujours qu'il y ait cette envie forcenée d'aller porter son texte sur les planches.
Alors, vous vous engagez, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Marivaux est habillé pour l'hiver, si j'ose dire. Alors Racine, c'est pas votre idole, Racine.
Non, j'en veux beaucoup à Racine. Alors entendons-nous, c'est évidemment le plus grand versificateur français et il a porté la beauté musicale du texte au-delà de tout. C'est aussi quelqu'un qui sur la psychologie sentimentale et notamment féminine est hors norme. Mais je lui fais plusieurs reproches. D'abord, je trouve qu'il a trop corseté cet art théâtral de l'écriture. C'est ce qui fait qu'il a un peu stérilisé le XVIIIe siècle et ça a été très difficile d'écrire après Racine. Voltaire a eu d'énormes succès, on ne le joue plus du tout aujourd'hui.
Plus du tout.
Marivaux, on l'a évoqué, mais il est passé par le détour de l'Italie et de ses comédies sentimentales et il faut attendre Beaumarchais pour qu'un théâtre puissant ressurgisse. Et puis je fais le reproche à Racine aussi d'avoir porté vers le jansénisme cet art et l'ensemble du regard français sur la scène. Il arrête d'écrire assez vite, il ne s'y remet que pour Esther et Attali, c'est-à-dire des pièces de commande de Madame de Maintenon.
Qui vont être jouées à l'institution des jeunes filles de Madame
de
Maintenon.
Voilà, donc on est dans un théâtre d'édification morale et donc je fais ce reproche-là à Racine. Maintenant, chaque fois que je vois une jeune comédienne bouleversée quand elle joue Andromaque ou Iphigénie, je me dis que Racine finalement mérite l'absolution.
Bon, quand même, malgré tout, il y a dans votre dictionnaire amoureux une foison de grands auteurs, bien entendu. Avant Racine, il y a Corneille. Alors là, en revanche, ça nous fait un point commun encore. Vous faites un éloge magnifique de Corneille.
Ah, oh, quel grand auteur! Malheureusement, je crois que ses ailes ont été un peu rognées par Richelieu. Le Corneille de jeunesse, celui de la place royale
de Mélite,
de la veuve, est un Corneille de profusion d'imagination. C'est tellement fin, c'est tellement la vie, la joie. Et puis arrive le Cid, grande pièce, la querelle du Cid, grand moment politique. Richelieu installe l'académie pour poser ses fondations. Il lui faut faire rentrer Corneille comme un pilier de cette institution. Et Corneille devient un auteur obligé d'écrire des tragédies. Des tragédies puissantes et politiques. C'est pour ça d'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'à mon avis, avec Molière, il est allé s'offrir des récréations clandestines. Mais quel grand auteur que Pierre Corneille. C'était notre Shakespeare. Il n'a pu écrire qu'une petite moitié, à mon avis, de l'œuvre qu'il aurait dû écrire.
Sur Shakespeare, vous ne vous prononcez pas là sur cette affaire.
Je suis trop étranger à cette langue-là. Je ne peux pas le lire dans l'anglais originel. Et puis trop écrasé aussi par cet univers, ce monde qui est Shakespeare. Il y a parfois des thèses disant que Shakespeare n'existait pas. Eh ben, j'aimerais qu'elles fussent vraies. Parce que je trouve que cet homme est extra-humain.
Trop universel.
Trop universel.
C'est incroyable.
Forcément, ils doivent être plusieurs. Et il doit y avoir l'intervention du diable.
Il y a chez Shakespeare un côté quasiment un don d'ubiquité. Il y a quelque chose d'inouï, hein, chez ce bonhomme.
Il a tout inventé.
Tout.
Il n'y a pas d'invention au théâtre qui ne trouve pas au moins une petite graine dans le théâtre de Shakespeare.
Ouais. Parmi les grands auteurs, il y a Beaumarchais. Et évidemment, la dimension politique de Beaumarchais ne pouvait vous laisser indifférent.
Il n'y a pas de révolution française sans Beaumarchais. Il est évident qu'avec le Barbier de Séville et surtout le mariage de Figaro, il a allumé la mèche qui a fait sauter l'ancien régime. Il est curieux de voir d'ailleurs que c'est Marie-Antoinette et Louis XVI qui ont fini par autoriser ce spectacle qui a précipité à bas. L'aristocratie a scié la branche sur laquelle elle était assise en applaudissant au mariage de Figaro. Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. À partir du moment où on autorise cette réplique sur une scène royale, l'ancien régime est frappé à mort.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, on aurait pu penser que le grand théâtre de Voltaire, théâtre dont le nombre de pièces est absolument vertigineux, était plus important, était politiquement plus significatif que celui d'un simple Beaumarchais, si je puis dire. Mais c'est l'inverse que la postérité a décidé. Hein,
exactement. Les grands succès commerciaux du temps, c'était les tragédies de Voltaire, dont on est bien en peine de citer aujourd'hui.
Ça se joue plus du tout.
Plus
là.
Du tout. Plus du tout. Terminé. C'est même difficile à lire. On joue de temps en temps où on parle de son Mahomet parce qu'il fait écho,
oui,
avec
évidemment.
L'actualité. Mais sinon, c'est illisible. Et les petites choses qu'il écrivait de ci, de là pour s'amuser sans grand intérêt, Candide, Zadig, Micromégas, c'est devenu le Voltaire éternel. Et au théâtre, eh bien, on l'a perdu. C'est un continent englouti.
Avec le 19e siècle arrive un théâtre de plaisir, si je puis dire. Un théâtre qu'on aime jouer, qui d'ailleurs occupe actuellement la première place dans tout le théâtre amateur, auquel vous êtes très sensible, évidemment, Christophe Barbier. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup un chapeau de paille d'Italie. On a fait une émission sur la biche l'autre jour. On a parlé longuement du voyage de M. Perrichon, etc. Il y a tous ces auteurs du 19e. Il n'y a pas que la biche, bien entendu.
Oui. Il y a des auteurs oubliés, comme Scribe, par exemple, qui ont une grande importance. Oui. Il y a évidemment Feydeau qui fait le tournant avec le 20e siècle. Et Labiche est au cœur de ce 19e parce qu'il est le premier auteur sociologue. Il nous parle non pas des dieux, des rois, des puissants. Il nous parle du petit bourgeois. Il nous parle de celui qui gagne 3 sous, du petit épargnant. C'est-à-dire cette société de la bourgeoisie produite par la révolution industrielle, transcendée par le Second Empire, qui va donner la France de la République. Donc c'est un auteur politique fondamental. Entre-temps, il avait fallu quand même la grande tempête du romantisme. Alors, ce théâtre n'aurait pas été possible sans Hugo, Dumas, qui sont venus chambouler toutes les scènes françaises. Avec quel talent!
Et avec toutes ces grandes actrices qui vont incarner, on pense à Mademoiselle Mars, puisque vous parlez
Mademoiselle Georges, Rachel, voilà. Tous 19e.
Et puis, bien sûr,
Sarah.
Eh, voilà. Alors là, il faut quand même, on ne peut pas faire une émission sur le théâtre avec Christophe Barbier sans consacrer quand même un minimum de temps à celle dont vous rêvez la nuit. C'est ce que j'ai découvert en vous lisant.
Oui, Sarah Bernhardt, c'est la comédienne avec un grand C. Voilà. Elle a cette chance de commencer sa carrière avant l'invention du cinéma, de l'enregistrement, et de la terminer en pouvant nous laisser une trace. Donc on a à la fois une Sarah Bernhardt mythique, qu'on ne connaîtra jamais, dont on n'aura jamais la preuve tangible, et une Sarah Bernhardt existante, puisqu'on a des enregistrements. Et puis quel mythe! Elle conquiert les États-Unis à la tête d'un train dans lequel il y a ses décors, elle tombe dans un trou, on lui ampute une jambe, elle continue à jouer, elle achète un fort à Belle-Île, elle a chez elle des animaux sauvages, un de ses crocodiles, je crois, meurt parce qu'elle lui a donné trop de champagne. C'est le théâtre dans la démesure.
Un boa qui bouffe son caniche, enfin oui.
Voilà,
enfin,
c'est toute la démesure qu'on aime dans le théâtre. Et puis ce magnétisme qui fait que les gens les plus rétifs, quand ils étaient devant elle en scène, étaient subjugués, complètement subjugués. Et elle prend la suite de Rachel, qui a fait la même chose, mais qui a tout raté. Elle est morte à 38
et qu'elle
ans.
Qu'elle détestait au combien.
Eh oui, elle est morte à 38 ans. Elle est allée aux États-Unis. Elle a attrapé une tuberculose fatale. Et Sarah Bernhardt va être cette grande réussite flamboyante comme sa crinière rousse.
Ce qu'il y a aussi avec Sarah Bernhardt, c'est sa capacité à entrer quasiment dans l'atelier des auteurs. Elle est proche d'Edmond Rostand.
Et
dans leur lit, ça je n'ai osé le dire, mais puisque vous le dites après tout, Zamakoïs, Rostand, etc. Enfin, elle fait partie en quelque sorte de la... Elle est presque co-auteur d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'avant le démiurge, c'était l'auteur et les acteurs étaient ses instruments. Avec Sarah Bernhardt, on a l'inverse. Il y a eu quelques modèles avant, comme Talma, un peu Lequin, c'est-à-dire ils faisaient l'œuvre par leur présence. Avec Sarah Bernhardt, c'est vraiment cela. Pas d'Edmond Rostand, en effet, sans Sarah Bernhardt, et pas Cyrano, puisqu'elle n'était pas dedans. Non, c'est avant, c'est La Princesse Lointaine, c'est La Samaritaine, et ce sera évidemment L'Aiglon après.
Et il y aura un petit peu après Sarah, le fameux Louis Jouvet, qui lui va être non seulement être le comédien emblématique de sa génération, mais va devenir metteur en scène et, à travers ses mises en scène, va influer là encore sur l'écriture d'un certain nombre de pièces. Je pense évidemment notamment à celle de Jean Giraudoux.
Oui, la mise en scène est inventée en France par Antoine. À un moment donné, il y a un artisan qui rassemble tous les éléments et puis elle devient un art de premier plan avec le cartel. Donc ça, avec Bathy, avec Toef, avec Copeau et avec Jouvet. Et ce cartel, dans les années 20-30, fait que l'on va au spectacle, non seulement pour entendre un texte, souvent des textes importés, d'ailleurs des Russes, des Scandinaves, mais pour voir comment un homme a rendu ce texte vivant, un décor, un jeu, une manière de bouger, et avec des interprètes. Et ça, c'est vraiment une grande innovation. Alors aujourd'hui, ça nous semblerait très limité, très fruste, parce qu'on a maintenant des mises en scène à grand spectacle, mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment révolutionnaire. Et donc, ils deviennent théoricien du théâtre, idéologue presque du théâtre. Oh bah pour lire ça, il faut regarder deux textes. Elvire Jouvet 40, comment sur quelques répliques de l'Elvire de Don Juan, il fait des heures et des heures de répétition, pendant que les Allemands envahissent Paris, hein, mais il n'en a rien à faire, il est dans son texte. Et ça donne un traité du jeu, de l'art du comédien. Puis un autre texte, c'est Artaud. C'est Artaud, sa conférence de 47, comment, à un moment donné, vouloir être un homme théâtre rend fou.
Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître un théâtre populaire qui existait, vous allez me dire, déjà depuis la fin du 19e siècle, mais qui se répand et dont la figure emblématique va être évidemment...
Ah bah, on a avec Jean Villard et le TNP cette grande aventure. Il a des prédécesseurs, hein, il ne l'a pas construit sur rien, et notamment il y a eu les pionniers de la décentralisation, parce que ce théâtre populaire va s'imposer par la
l'ancêtre d'un maréchal aujourd'hui.
Et oui, voilà. C'est pas un théâtre parisien, ce théâtre-là. C'est pas de Jean Villard et pas de TNP sans le Festival d'Avignon. Alors on peut dire que ce sont les Parisiens en vacances, mais tout de même, c'est parce qu'il y a en province une faim énorme de théâtre qui ne se contente plus des tournées parisiennes où on met des comédiens de second couteau pour jouer les succès de l'année précédente, qui veut un théâtre né, installé, sur place dans le terroir, qu'on va avoir cette grande expérience du théâtre national populaire.
Les grands metteurs en scène ont bercé notre jeunesse, cher Christophe Barbier. Alors on en a cité un certain nombre, bien entendu. C'était l'époque de Chéreau, c'était l'époque de Vincent, etc. Est-ce que les metteurs en scène sont devenus les nouveaux maîtres du théâtre, en quelque sorte ?
Non, ils ont cru l'être, ils ne le sont pas, ils ne le sont plus. Il y a eu, dans les années 80-90, cette prise de pouvoir totale du metteur en scène.
C'était incroyable.
Incroyable et excessif souvent, c'est-à-dire que l'œuvre devenait un prétexte. Je suis très sévère avec des gens comme Bob Wilson, comme Régis, comme d'autres, parce qu'on a l'impression que finalement le texte n'était qu'un prétexte à leur vision. Et puis il y a eu une autre illusion, c'est que la compétition du spectacle entre théâtre et cinéma pouvait être gagnée par le théâtre. Non, le cinéma avec les effets spéciaux ne peut pas être rattrapé. Il faut aller chercher l'authenticité, la sincérité de l'émotion pour que le théâtre soit supérieur au cinéma. Et ça c'est le comédien. C'est le comédien qui, à l'instant T, est en scène, vivant devant nous, chair et verbe, au service de nous autres, êtres humains, vivants devant lui. Et ça, le cinéma ne le fera jamais.
Et ce comédien qui dispose de tout ce qu'il y a de plus faux dans les accessoires les rend plus vrais qu'ils ont jamais été. Ça, c'est tout à fait... C'est le paradoxe, c'est ce qu'il y a de fascinant dans le théâtre. C'est la magie, c'est la transcendance du théâtre qu'il faut laisser passer, disait Giraudoux, sur les plaies du quotidien, comme le fer sur le linge. C'est exactement ce que vous faites, Christophe Barbier, à travers les pages passionnantes, et on l'aura compris maintenant, foisonnante de ce dictionnaire amoureux du théâtre, publié naturellement chez Jean-Claude Simoen, chez Plon.
Dans un instant sur Europe 1, retour aux origines, Franck Ferrand vous répondrait, et on reste dans le milieu du spectacle, à la question de François sur les origines de l'expression Deus ex machina.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est une question de François via le site internet europe1.fr. Bonjour Franck, bonjour à l'équipe. Je suis cinéphile et j'entends régulièrement parler de Deus ex machina. Pourriez-vous nous expliquer l'origine de cette expression ?
Alors, vous savez qu'il existait des machines il y a très longtemps. Pour faire plaisir à Audrey, je lui signale qu'on consacrera un jour une émission au théâtre antique, parce que là, on l'a pas fait du tout aujourd'hui. Je sais qu'elle est déçue, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas via Twitter. Mais il existait dans le théâtre antique ce mécanisme qui permettait de faire entrer sur scène un certain nombre de créatures, de dieux, n'est-ce pas ? Deus ex machina, c'est le dieu qui sort de la machine. C'est assez facile. Alors, au XVIIe siècle, on est dans ce théâtre de grande machinerie, justement. L'un des exemples les plus fameux, ce sera sans doute l'Œdipe de Corneille, d'ailleurs commandé par le surintendant Fouquet, qui est une espèce de pièce à machinerie multiple, à apparition, à disparition, avec des trappes et et les poulies, si je puis dire. Ce théâtre s'impose, mais en même temps, il y a, ne l'oubliez pas, fixé par la toute nouvelle Académie française, cette règle des trois unités. Hein. Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Et donc, il faut faire arriver d'une certaine manière les créatures inattendues par toutes sortes de subterfuges, par toutes sortes de systèmes de contrepoids, de cordes, de trappes, de leviers. Enfin, ça devait être d'ailleurs assez spectaculaire. Alors ça, c'est pour la machinerie matérielle, si je puis dire. Quand on parle d'un Deus ex machina, on est plutôt dans une acception plus imagée. C'est-à-dire qu'en fait, on veut parler de quelqu'un qui arrive au moment où on l'attend le moins, ou de ce qui va permettre de dénouer une situation. C'est le dénouement, le Deus ex machina. Et l'exemple sans doute le plus frappant qu'on en ait dans notre répertoire classique, c'est celui du Tartuffe de Molière, puisque vous savez que pendant l'essentiel de l'intrigue, on pense que Tartuffe va réussir, va triompher. Cette comédie est en train d'ailleurs de tourner à la tragédie, c'est assez terrible. Et puis arrive au dernier moment, à la scène 7 de l'acte 5, arrive ce qu'on va appeler un Deus ex machina, c'est-à-dire le dénouement inattendu, l'intervention en l'occurrence de la puissance royale. Alors il s'agissait sans doute en 1664 et surtout au moment de la reprise en 1669, il s'agissait sûrement de faire plaisir à Louis XIV, mais enfin quand même, nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs, dit Molière. Eh bien, c'est bien une intervention inattendue, miraculeuse, qui d'un seul coup fait basculer la pièce, et c'est l'exemple même de ce qu'on appelle un Deus ex machina.